Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Yoann Colo, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Pour trouver des boissons de qualité, artisanales et traditionnelles, rendez-vous sur demichelot.com. Rappel nécessaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce podcast numéro 13, le podcast du malheur. Est-ce que c'est le podcast qui va porter malheur ou porter chance? Est-ce que c'est le podcast qui va venir voir une condamnation de la part de je ne sais quel organisme, parce que je parle d'alcool, produit du diable? Ou le podcast du bonheur, parce que suite à ce podcast, des tonnes d'entre vous, si vous êtes des centaines, voire des milliers à écouter ce podcast chaque semaine, de plus en plus nombreux d'ailleurs, merci. C'est petit pas par petit pas, une petite cinquantaine en plus toutes les semaines qui écoutent le nouvel épisode. Certains l'ont pris comme un rendez-vous, merci beaucoup. Donc je disais, le podcast qui porte bonheur parce que vous allez tous acheter sur demichelot.com les éditions Maquisard. Les quatre maquisards dont je vous ai tant parlé, dont je ne vais pas vous reparler, vous savez très bien ce que c'est, le Calvados, le whisky, l'Armagnac, le cognac, et la collab Gin Citadel et Dose de France sur un cinquième embouteillage, qui sort lundi 2 juin, donc lundi prochain, à 9h du matin. Désolé à tous ceux qui sont au RSA et qui touchent l'argent le 5. J'aurais bien voulu récupérer votre RSA avec mes bouteilles. Mais ça sera le 2, voilà. J'espère que vous l'avez économisé celui du mois dernier, ou que pour vous, il restera quelques bouteilles le 5. Je ne l'espère pas pour moi, j'espère que tout partira très très vite. Ce serait signe d'une grande confiance de votre part envers ce que je suis capable de sélectionner. Sachez aussi, je ne vais pas vous en parler pour l'instant, mais que grâce à votre engouement pour Maquisard, pour Demichelot d'une part, mais aussi pour Maquisard, parce que Maquisard, c'est quand même une marque qui, comme n'est pas destinée à un grand public, se fait remarquer dans le tout petit milieu des amateurs et experts des spiritueux, et se fait très très vite remarquer, parce que c'est un tout, tout, tout petit milieu. Et sachez que ça m'ouvre des portes qui sont vraiment extrêmement stylées. Et donc si ça continue à bien se vendre, notamment ces 5 éditions pour la fête des pères, il est probable que pour la fin d'année sortent des trucs très très cool et inédits au monde, avec des distilleries qui n'ont jamais eu l'idée ou même accepté de travailler avec des embouteilleurs indépendants et qui, juste pour nous, notre communauté et Maquisard, accepteraient de nous vendre des jus. Et donc il est très probable, Je ne peux pas encore l'affirmer, c'est pour ça que je ne vais pas dire des noms, mais il est très probable que sur des futures éditions de Maquisard soient mentionnés des noms de distilleries très prestigieuses qui nous auraient ouvert les portes de leur chais. Ça serait vraiment extraordinaire. Ah, je bois un petit peu d'eau pour m'hydrater, tout simplement, parce que sinon, je décède. Alors, donc voilà, ça c'est fait. Pour la soirée sur la barge pour la fête des pères, alors vous avez tout booké très rapidement. On avait rajouté 5-6 places comme ça à la volée qui ont directement été prises aussi. Donc j'ai très hâte de vous rencontrer pour ceux que je verrai là-bas. Ça sera génial et vous pourrez avoir des super explications sur 3 types de spiritueux, faire des dégustes, ça va vraiment être cool. Donc j'ai hâte d'être à cette soirée, et pour les annonces, je pense qu'on est bon. Je me suis acheté alors je ne les ai pas encore reçus, mais je me suis acheté les lunettes collab Ray-Ban Meta, donc que tu mets sur la tête, c'est des lunettes quoi, que tu mets comme des lunettes en fait, et ça sert à filmer mais avoir les mains libres. Donc j'ai pas mal regardé en ligne des analyses, des reviews, pour le dire en anglais, de youtubeurs qui les utilisaient. Ça a l'air vraiment cool. Donc j'ai décidé de les prendre parce que, comme vous voyez là, cette semaine, j'ai rien publié. Je vous cache pas que publier sur les réseaux sociaux, enfin, je publie sur Instagram et à chaque fois, je riposte tout sur Twitter, TikTok, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui maintenant me gonfle profondément. Je n'y trouve plus aucun plaisir. Je vous le dis cash, hein. Je n'y trouve absolument aucun plaisir. Et c'est juste communiquer, pour parler de ce que je fais à côté. Et une des premières choses qui me saoulait là-dedans, c'est le manque de naturel, de discrétion que tu as avec un téléphone. Parce que quand tu vas, par exemple, tout seul dans un resto, et moi, je préviens pas le resto avant, ouais, je veux filmer, truc. Disons que j'ai du mal à être, c'est pas vraiment mon boulot, j'ai du mal à être sans gêne comme ça, à rentrer, à filmer et tout. Et donc le téléphone, c'est pas giga discret et ça rend pas le truc très naturel. Donc j'aimerais bien, ces lunettes, ça peut être cool pour refaire des vidéos comme ça, puisque il y a vraiment pour vous la sensation d'être à ma place et dans la manière de filmer quelque chose de beaucoup plus naturel, ce qui pourrait faire avoir des images. Bah bien plus authentique, intéressante, et la possibilité de raconter un autre fil rouge, une autre ligne directrice, en se plaçant vraiment comme si vous étiez dans ma peau. Et je pense que ça va donner des vidéos cool. En tout cas, ça me remotive à en faire. Donc j'ai hâte, je les ai achetées là, je ne les ai pas encore reçues. J'ai hâte de les recevoir pour faire les premiers tests. Et ça va être pas mal. C'est pas mal. Surtout quand je vois les vidéos d'autres influenceurs ou quoi qui font, enfin d'autres créateurs de contenu qui font ça avec ce genre de lunettes. Moi, je trouve ça très stylé. Donc j'ai hâte de tester ça et j'en parlerai pas spécialement sur les réseaux sociaux. Je montrerai pas que j'ai ce genre de lunettes. Donc vous serez un petit peu les seuls à savoir comment je filme. Et j'ai hâte de voir les tout premiers résultats. Je sens que ça peut donner des trucs très très cool. Mais sinon, ouais, j'ai vraiment pris un vrai plaisir avec ce rendez-vous hebdomadaire, parce que je le tiens, c'est assez dur de tenir dans la durée des rendez-vous comme ça, parce qu'on finit vite par se lasser. En fait, c'est le montage qui me fait bien bien chier aussi. Là, il n'y a pas de montage, très cool, hein, j'appuie sur play, je lance, et ça part. Et après, je blablate pendant un certain temps, puis je poste, et honnêtement, la facilité, il n'y a pas de vidéo, donc c'est très pratique. Enfin bref. Rendez-vous le 2 juin à 9h pour les 4 maquisards et la collab Dose de France. Aujourd'hui, le sujet du jour, enfin, je vais le traiter après l'avoir annoncé dans les 3 ou 4 derniers podcasts, qui est le sujet de la baisse de la consommation d'alcool en France, qui n'en finit pas de s'effondrer. Savoir d'où elle vient, pourquoi elle vient, et est-ce que c'est véritablement un danger pour la filière de l'alcool que la consommation baisse? Alors j'ai mené une petite enquête, alors c'est pas forcément très approfondi, hein, mais c'est juste voilà, observer les tendances, savoir d'où on part, où est-ce qu'on en est, quelles sont les principales explications, les forces en présence globalement, pour que vous puissiez vous faire une petite idée, et savoir si c'est alarmant, si c'est pas alarmant. Après, c'est un petit peu compliqué d'en parler puisque c'est comme j'ai l'impression d'être dans la peau d'un vendeur de tabac qui s'alarme que les gens fument plus de clopes. Tu pourrais dire, bah, c'est con pour ton business, mais tant mieux pour la santé des gens. Bon, moi, j'ai toujours considéré que l'alcool, qui est une drogue, certes, mais une drogue différente des autres puisque bah, déjà, il y a une infinité de types d'alcool. Il y a des vraies expressions de terroir, des savoir-faire uniques, tout un ribambelle de métiers qui se sont créés autour et qui sont extrêmement nobles. C'est-à-dire que c'est des métiers qui se transmettent de génération en génération, sur des siècles, qui ont des potentiels d'exploration infinis, ne serait-ce que, par exemple, un tonnelier, la manière de fabriquer les tonneaux, les différentes formes, les différentes chauffes, les différentes essences de bois. En plus, ça te pousse ensuite à mieux comprendre le bois, à mieux entretenir tes forêts, etc., etc. Donc, je trouve que l'alcool pousse dans une réflexion, un approfondissement des savoir-faire, des techniques, dans un nombre de métiers incalculable. Donc j'estime que ça fait certes des dégâts en bout de chaîne d'un côté, mais de l'autre côté, et surtout pour ce qui est des alcools de qualité, bah ça fait grandir énormément de choses. Ça donne une profondeur à beaucoup de métiers qui n'auraient pas été explorés si l'alcool n'avait pas été là, même. Pour avoir parlé aussi avec pas mal de gens et lu des livres beaucoup sur l'alcool pour m'enseigner, c'est aussi un marqueur de niveau d'évolution d'un peuple. Parce que savoir fabriquer de l'alcool en différentes formes, il s'est aussi corrélé à quel type d'outils vous utilisez. On ne peut pas fabriquer un spiritueux tant qu'on n'a pas inventé l'alambic. Savoir maîtriser, enfin créer, fabriquer, puis maîtriser un alambic implique que votre civilisation est élevée à un niveau qui vous rend capable de le faire, puisqu'il faut savoir extraire du cuivre, le façonner, le marteler, le transformer, maîtriser différents procédés physiques, chimiques, etc., etc. Enfin bref, c'est pas le sujet du jour, l'histoire de l'alcool, mais bon, vous avez compris l'idée. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, je me suis pris quelques notes, j'ai quelques graphiques devant les yeux, hein, j'ai bossé, j'ai bossé. Ce sera pas un truc aux doigts mouillés non plus comme ça pour voir le sens du vent. Non, c'est, j'ai quand même bien regardé dans les détails. Alors, j'ai deux graphiques devant moi, et les deux, ce qui est pratique, c'est qu'ils partent de 1960 jusqu'à. Alors, il y en a un, il va à 2011. À peu près, l'autre il va à peu près à 2020, et après j'ai d'autres stats qui vont jusqu'à 2023-2024. Mais ils partent tous de 1960. Il y en a un que c'est de l'INSEE et l'autre c'est de l'OMS avec l'INSEE. Globalement, alors ils se contredisent sur 2-3 données, notamment au niveau de la bière, ce qui est assez bizarre. Celui de l'OMS a l'air de dire qu'on boit quasiment pas de bière, voire qu'on boit plus de spiritueux que de bière, ce qui est bien évidemment faux, hein. C'est pas possible. Mais bon, après, sur le vin, ils ont à peu près la même tendance. Donc je pense qu'il y a quand même une ligne directrice à suivre. Alors, pour vous faire le topo, moi, j'analyse, donc il y a effectivement une baisse de consommation d'alcool qui est très rapide, très violente. Ça, tous les indicateurs le confirment. En France, hein, je parle toujours en France, mais ça s'observe globalement à l'échelle de l'Occident. Alors j'analyse deux causes, voire trois. Les premières causes étant tout ce qui regroupe les changements d'habitude de vie de la population générale. Alors pour vous donner une simple statistique, donc en 1990, ce qui était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 35 ans maintenant, putain déjà quand même, 35 ans, il y avait un Français sur quatre en âge de boire. Donc 18 ans et plus, qui buvaient tous les jours, 1 sur 4. On va pas se mentir, c'est quand même colossal. Aujourd'hui, donc 35 ans plus tard, c'est 7%, donc ça a quasiment été divisé par 3 fois 7, 21, donc 3,5. La consommation en 35 ans, la consommation quotidienne, en tout cas, a été divisée par 3,5. Il faut savoir que sur ces 7%-là, attention, accrochez-vous, il y en a 26 pour... enfin, la tranche d'âge des 65 ans et plus, vous en avez 26% qui boivent tous les jours. Donc c'est 3,5 fois, encore une fois, au-dessus de la moyenne nationale. Et si vous comprenez bien, ça se rapproche vachement des stats de 1990. Donc globalement, toute la tranche d'âge 65 ans et plus, qui était celle qui avait 30 ans en 1990, continue de pas mal picoler. Comme ils le faisaient avant, ils n'ont pas changé leurs habitudes. Donc vous comprenez tout de suite qu'en fait, c'est les plus jeunes qui ne boivent quasiment plus, puisque cette consommation quotidienne est portée par les 65 ans et plus. Et que malgré le fait que une personne sur quatre de 65 ans et plus boive tous les jours, à l'échelle nationale, on n'est qu'à 7% de Français. Donc là, on peut réaliser que oui, la consommation, en tout cas au niveau quotidien, est en chute libre. Après, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Moi, je suis juste là pour analyser. Je considère que c'est pas forcément mal qu'il n'y ait pas tout le monde qui boive tous les jours, parce que ça fait des dégâts, et puis ça dépend ce que tu bois aussi, quoi. Alors, moi, je l'explique, cette chute de consommation aussi, enfin, cette différence plutôt de consommation entre ces différentes tranches d'âge, c'est que les vieux, donc ceux qui ont 65 ans et plus, ils avaient une consommation traditionnelle de vin qui n'était pas forcément de bonne qualité. Ils buvaient des vins primeurs, les vins qui coûtent 2-3 balles. Ils faisaient, c'est, en fait, c'était pas, ils se mettaient pas des cuites, mais c'était un verre de vin ou deux le midi et pareil le soir, où ils faisaient chabreau, donc ils remplissaient leur bol de soupe de vin et ils le buvaient entièrement. Attendez. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh la vache, je suis enrhumé là d'un coup. Donc, je disais, il faisait chabreau, donc il buvait tout de suite beaucoup plus de vin en termes de quantité. Ils avaient pas mal de vin dilué aussi, ce qui fait que proportionnellement au volume d'alcool, ils buvaient peut-être pas autant que quand on boit un verre de vin aujourd'hui, mais ils buvaient en belle quantité. Et ce qui pousse du coup à boire tous les jours. Peut-être pas boire beaucoup d'alcool en volume d'alcool pur tous les jours, mais à boire tous les jours quand même. Alors qu'aujourd'hui, la consommation, c'est plutôt ce que les Anglais appellent le binge drinking. Donc c'est de la consommation où en fait tu te déboîtes instantanément. En fait, tu bois pas quotidiennement, mais quand tu bois le week-end, tu te mets une turbo-tôle, quoi. Et moi, je considère que c'est pas forcément mieux parce que ton organisme, tu le choques, tu le détruis d'un coup. Et en plus, c'est souvent avec des alcools forts ou des bières très fortes ou de la bière bue en très grande quantité. D'ailleurs, vous voyez, en parlant des jeunes, je parle uniquement des spiritueux et de la bière. En fait, là, j'ai le graphique sous mes yeux, mais de toute façon, c'est assez évident. En gros, la consommation de 1960 à 2025, donc aujourd'hui, donc c'est en 40 plus 20, 60, 65 ans, elle s'est effondrée. Mais en fait, sur les spiritueux, aussi étrangement que cela puisse paraître, eh ben, elle est restée stable. En 1960, on ne buvait pas beaucoup de spiritueux. C'est une niche qui boit les spiritueux, clairement, ou après dans des cocktails ou des choses comme ça. Mais en 1960, on ne buvait pas beaucoup de spiritueux. Et en fait, on en boit toujours autant aujourd'hui. La bière, c'est pareil, même si à un moment ça a légèrement infléchi, on n'en buvait pas beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on observe, c'est que la bière est le seul des trois groupes d'alcool, donc vin, bière, spiritueux, à maintenant, là, dans les années très récentes, être en croissance. Par contre, le vin, c'est catastrophique. Le vin, on est passé de 115 litres par personne, donc c'est quasiment 33 centilitres par personne, même un peu plus, 33 centilitres de vin par personne par jour en 1960, à 17 litres par an aujourd'hui. Donc 115 litres par an à 17 litres. Donc, à vue de nez, ça fait une consommation divisée par 7. Donc, la première réponse qui est que, OK, il y a une chute drastique de la consommation d'alcool en France, oui, mais qui est quasiment entièrement, si ce n'est entièrement, absorbée par le vin. Alors, il y a un autre alcool dont je vais vous parler plus tard qui absorbe aussi, mais en fait, il a juste disparu aujourd'hui, donc juste, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est pas que les gens boivent moins d'alcool de manière générale, c'est que les gens boivent infiniment moins de vin. Parce que la filière des bières et spiritueux, bah, finalement, ça n'a pas tant bougé que ça, voire ça s'améliore beaucoup pour la bière. Il y avait un autre argument que j'ai entendu pour justifier la baisse de la consommation d'alcool, c'est est-ce que les gens n'auraient pas grossièrement changé de drogue? En gros, pour parler du cannabis, est-ce que les gens ne sont pas mis à fumer des joints et à ne plus boire d'alcool? J'avais entendu ça sur des plateaux télé, sur CNews, hein, pour pas les citer. Ouais, mais parce que maintenant, les gens, ils fument des pétards, c'est leur manière de s'amuser. Alors, on pourrait le croire parce que c'est de plus en plus présent. Visiblement, dans les chiffres, ça se traduit pas trop, puisque à 17 ans, il y a 8 jeunes sur 10 qui ont déjà essayé l'alcool, alors qu'il n'y a que 4 jeunes sur 10 qui ont essayé le cannabis. Et dans la consommation régulière, voire quotidienne, la différence est encore plus grande. Il y a beaucoup plus de consommation régulière d'alcool que de cannabis, beaucoup plus de consommation quotidienne d'alcool chez les jeunes que de cannabis. Le cannabis, en fait, reste tout de même une partie infime de la population, a tendance à plutôt stagner. L'alcool, alors lui, a tendance à diminuer, donc on pourrait se dire ça se rejoint, mais du fait que les courbes se croisent pas de manière exponentielle, on ne peut pas dire que l'un remplace l'autre. Et puis même, c'est assez observé que souvent, les mecs qui se dégomment au cannabis quotidiennement sont aussi des mecs qui peuvent avoir tendance à se dégommer à l'alcool. Donc, ce sont juste en fait des gens excessifs. Donc, il n'y a pas vraiment de remplacement de consommation, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Puisque, soit les... Enfin, je viens de vous expliquer pourquoi. Il y a aussi une autre explication dans les changements d'habitude de vie que... Alors, je me suis noté que l'image de l'alcool pouvait être cool avant. Alors, je ne suis pas forcément sûr. Mais maintenant, ça ne l'est vraiment plus du tout, puisqu'il y a quand même une sacrée démocratisation du bien-être, du sport, de la salle. Il y a énormément d'influenceurs fitness. Ça fleurit depuis ces 10 dernières années. Enfin, vous le voyez, comme vous avez à peu près mon âge, ceux qui m'écoutez, vous le voyez clairement partout. Vous en connaissez tous au moins une dizaine. Il y a aussi une meilleure connaissance, hein, on va pas se mentir, meilleure connaissance des dangers de l'alcool. Je pense qu'en 1960, ils savaient pas du tout. Il y en avait même beaucoup qui les utilisaient pour soigner. Donc forcément, ça te fait picoler plus. Alors qu'aujourd'hui, on sait que, bah, pris à haute dose et très régulièrement, ça devient vraiment un gros poison et on peut avoir des nombreuses addictions. Donc forcément, t'as moins envie de boire. On boit moins, on fait plus attention à nous. Même le running, là, en ce moment sur Instagram, je vois, il y a le marathon de Paris. J'ai l'impression que 100% des Français ont couru le marathon de Paris. Donc oui, les mecs, pendant 3 mois avant, ils boivent pas. Il y a de plus en plus aussi de radicalité dans les esprits, que ce soit en politique ou en manière de vivre. Je croise vraiment énormément de gens maintenant qui disent « Non, je bois plus une goutte d'alcool ». Forcément, quand tu passais à une personne sur quatre qui picolait tous les jours en 1990, à maintenant un nombre croissant de gens qui non seulement ne boivent plus du tout, mais font vraiment la promotion de ce mode de vie, bah, tu fais mathématiquement chuter la production, surtout quand ils sont influents. Alors, non, à part dans le cas où tu n'aimes pas du tout l'alcool, ça a un goût qui te répugne, etc. Du coup, je comprends que tu boives pas parce que tu ne veux pas t'infliger un truc que tu trouves dégueulasse. Ceux qui le font en mode ouais, je bois jamais d'alcool, comme ça j'ai un corps sain. Bon, t'es pas athlète de haut niveau, hein. Ok, tu cherches des performances pour toi et tout, mais il y a un moment, faut redescendre. Si tu bois une ou deux bières par semaine, ça va pas te massacrer le corps. Ronaldinho, il se mettait des cuites tous les week-ends, ça l'a pas empêché de faire danser la samba aux joueurs de Chelsea et mettre des extérieurs pas en finale de Ligue des Champions, mais en Ligue des Champions, quoi. Bon, le mec a pas eu une carrière giga longue, je te l'avoue, mais c'était quand même un génie. Enfin bref, tout ça pour prendre. Je suis vachement enrhumé là d'un coup, je sais pas ce que j'ai. Enfin bref. Donc il y a cette grosse progression-là, et puis maintenant on le voit, ça se traduit par la tendance du ce qu'on appelle du no ou du low alcool, donc les 0% ou les trucs très faibles en alcool, genre 1, 2, 3%, qui fleurissent un petit peu partout. Alors, il y en a qui sont quand même assez efficaces, hein, on va pas se mentir. Les vins pétillants sans alcool, il y en a beaucoup qui sont très très bons et qui font une illusion parfaite, puisqu'ils ont maintenant travaillé sur des procédés de fabrication qui sont bah, assez bluffants. Il y a aussi de plus en plus de bières sans alcool, où même moi on m'en a servi et on m'a pas dit que c'était de la bière sans alcool et je me suis fait berner. Je la trouvais très légère, mais j'aurais pas pensé qu'elle était sans alcool. Et alors les spiritueux, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il y a joie, pas mal de gin sans alcool et tout. Alors ça, c'est peut-être le seul qui peut faire à peu près illusion parce qu'il est fait uniquement pour être mélangé en cocktail. Mais les autres, c'est vraiment très dur. Parce que quand tu remplaces un alcool où il y a 40% d'alcool de base, tu perds quand même du goût, quoi. Enfin bref, toutes ces tendances, on les voit bien, on monte. Mais moi, je considère que, contrairement à ce que je peux entendre de mes camarades de l'industrie de l'alcool, c'est pas ça qui fait le plus diminuer la consommation. Pour moi, c'est alors, ce que j'appelle la socialisation digitale. En fait, il faut savoir que entre 1960 et 1990, début des années 2000, tu n'avais pas de smartphone, tu n'avais pas de réseaux sociaux, tu n'avais pas d'Internet. Tu avais à peine une télé par foyer, encore pas sûr. Tu n'avais même pas toujours de téléphone fixe, pas de forfait illimité. Enfin bref, la seule manière de rencontrer d'autres gens, c'était la vraie vie. Quand tu te voyais avec tes potes, bah tu te voyais dans la vraie vie. Quand tu devais rencontrer une fille, bah tu lui donnais rendez-vous, enfin tu lui parlais pour la première fois dans la vraie vie, et puis tu la revoyais dans la vraie vie. Et tout se faisait dans le monde réel finalement. Le monde réel, vous le voyez bien, quand tu vas voir tes potes, tu rencontres tu fais un date ou quoi que ce soit, bah, la plupart du temps, tu te fais quand même, il y a souvent l'étape bar ou restaurant, on va prendre un verre, quoi. Bon, ça peut paraître con, mais cette multiplication de petits rendez-vous, de moments de sociabilisation, aussi les cafés qui se sont effondrés, hein, il y en avait 200 000, aujourd'hui il n'y en a plus que 30 000 ou 40 000, donc c'est quand même très grosse diminution. Ce sont autant de moments de vie qui ont été transposés de la réalité où les gens se voyaient pour de vrai, a un aspect digital. Donc la plupart des gens sont chez eux. Chez eux, ils boivent pas forcément, il n'y a pas ce moment de convivialité, de partage qui pousse à consommer de l'alcool. Et donc, en fait, juste les gens discutent en ligne. Et moi, je considère que la baisse de la consommation d'alcool, au-delà de toutes les modes, elle vient aussi de là. C'est que maintenant, beaucoup de gens sont seuls chez eux. Alors, ils sont seuls physiquement, pas forcément ils souffrent pas forcément de solitude, mais ils sont seuls, ne partagent plus de moments de convivialité, de moments en groupe, font des rencontres en digital, via les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Et l'alcool, qui avait cette fonction de lubrifiant social, on va dire, parce que quand tu te réunis autour d'une table, t'es pas juste autour de la table, quoi, tu fais quelque chose. Qu'avant, les gens, ils fumaient des clopes et ils buvaient des bières, enfin, avant, ils fumaient des clopes et ils buvaient des verres de vin. Voilà, maintenant, ils boivent des verres de bière quand ils se rencontrent. Et je pense qu'on sous-estime vraiment cette part-là, c'est un argument que j'ai jamais entendu de la part de mes confrères, qui tous sont quand même assez portés sur la haine du sans-alcool. Mais le sans-alcool remplacera jamais l'alcool. C'est quelqu'un qui, moi par exemple, je veux chercher, quand je veux boire une bière, une vraie bière, il faut qu'il y ait l'alcool dedans pour qu'il y ait le goût de vraie bière. Et l'alcool apporte des arômes uniques que le sans-alcool ne peut pas créer. Donc, je bois une bière sans alcool quand j'ai envie d'avoir quelque chose qui ressemble à de la bière, mais j'ai pas envie de boire d'alcool pour ma santé. En fait, c'est quand je bois une bière sans alcool, c'est uniquement dans une réflexion pour ma santé. Donc, ça, c'est pas forcément parce qu'il y a du sans alcool que je bois plus d'alcool. C'est parce que maintenant, c'est plutôt l'argument du bien-être, du sport, des connaissances des dangers de l'alcool. Et le sans alcool vient répondre à cette tendance. Mais le sans alcool n'est pas un remplacement de l'alcool. Je considère que c'est un nouveau marché qui se met à côté de celui de l'alcool et qui peut avoir ses bénéfices. Vous voyez, moi, quand je vais tous les jours au restaurant pour faire mes tournées clients, etc., je suis tous les jours exposé à de l'alcool et je trouve ça assez agréable de pouvoir boire une bière sans alcool très régulièrement parce que ça me permet d'avoir quand même, de pouvoir donner de l'argent au commerçant sur quelque chose sur lequel il va faire une plus-value, de pouvoir avoir quand même, malgré tout, cet aspect de convivialité parce qu'on boit un coup, machin. C'est sympa, mais on ne boit pas d'alcool. Bon, ça peut paraître con aux yeux de certains, mais moi j'y trouve une très grande utilité et je pense que ceux qui sont un peu dans ma manière de penser peuvent très bien le comprendre, l'intérêt du coup du sans-alcool. Mais ça, pour insister, hein, c'est le vin sans alcool ne remplacera pas le vin. Ce qui tue le vin, c'est pour moi la disparition des moments du réel qui amenaient à une consommation de vin et qui ont été transposés dans une socialisation digitale où les gens sont seuls physiquement, mais parlent via les réseaux sociaux, les chats en ligne, Discord, peu importe quoi, une socialisation digitale. Du coup, il n'y a plus un prétexte, enfin c'est plutôt l'inverse, l'alcool n'est plus un... Enfin, l'alcool était quelque chose que tu mettais au centre de la table parce que tu te réunissais, mais le sujet de base, c'était de se réunir. Aujourd'hui, il y a un autre moyen de se réunir qui est en ligne, tout simplement. Et je pense que la principale perte de volume d'alcool en termes de consommation, c'est ça, c'est vraiment ça. Je sais pas si j'ai été clair, mais moi, ça me paraît quand même assez limpide. Et donc, je voudrais... À travers cette petite analyse, faire comprendre que le sans-alcool n'est, messieurs, dames, pas quelque chose qui va venir détruire votre industrie, mais le sans-alcool accompagne le monde du bien-être, de la santé, du sport. Ce qui tue vraiment votre industrie, c'est que les gens ne se rencontrent plus. C'est que les gens, en fait, sont en ligne. Tout simplement, ils ne sortent plus. Vous voyez, hein, les boîtes de nuit, ça marche moins bien. Le monde de la nuit est en train de s'effondrer à plein d'endroits. Alors, ce n'est pas forcément que de la fête, hein, je veux dire. Parce que maintenant, il y a beaucoup de fêtes, mais c'est des événements, c'est de l'événementiel communautaire. C'est des gens qui se rencontrent juste entre eux. C'est pas des inconnus qui viennent tous se mélanger à un même endroit. On fait des fêtes entre nous. Vous voyez, il y a plein de restaurants à Paris qui avant étaient ouverts 24-24. Les gens, quand ils y allaient de nuit, je mets ma main à couper qu'ils buvaient de l'alcool. Aujourd'hui, ces restaurants qui étaient 24-24, il n'y a plus personne qui sort la nuit. Parce qu'en fait, ceux qui sortent la nuit, soit déjà ils sortent plus la nuit parce qu'ils dorment, enfin le mode de vie a changé, Soit c'est plus des fêtards, ou soit sinon, tout simplement, ils sont en ligne. Tout simplement. Et du coup, tous ces restaurants qui étaient ouverts 24-24, bah, la quasi-totalité, si ce n'est la totalité, ferment toujours très tard, mais ne sont plus du tout en 24-24. Le monde de la nuit à Paris a totalement changé. Totalement changé. Et je pense que ce n'est pas le bien-être qui a tué ça, c'est la socialisation digitale. Parce qu'il y a plus de gens qui font du sport, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils se turbinent moins, enfin peut-être un peu moins. Mais il n'y a pas non plus 95% de la population qui est devenue un limite straight edge, zéro alcool, zéro fumette, nanana. Enfin voilà, on voit en ligne, mais c'est exacerbé par certains influenceurs dont soit c'est le métier, donc c'est normal que bah, ils se flinguent pas parce que leur corps, leur manière, leur mode de vie, c'est leur travail, c'est leur entreprise, donc c'est normal que eux aient une vision beaucoup plus développée et poussée de leur image, mais ça donne un et leur quotidien, de leurs habitudes de vie, et ça donne. Ça fait un effet loop sur le fait qu'on a l'impression qu'il y ait des tonnes et des tonnes de gens qui boivent plus du tout ou quasiment pas, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà. Bref, je vais pas réinsister dessus. Pour moi, le vrai problème, c'est le manque de rencontres réelles. Le deuxième facteur de ces grandes catégories, c'est aussi le travail de l'État français. L'État français, depuis 1960, il en a fait des choses pour diminuer la consommation d'alcool. Alors, en pagaille, on pourrait citer des trucs qui sont assez rapides, comme l'augmentation des taxes continues sur l'alcool. Vous savez, tous les 1er janvier, les taxes de douane et de cotisation de sécurité sociale. Oula. Les taxes de douane, parce que oui, quand on fabrique de l'alcool, on paye des taxes de douane, qu'on appelle les accises, et on paye des cotisations de sécurité sociale en amont, parce qu'ils estiment que du coup, on va coûter de l'argent à la sécurité sociale par les dégâts que vont créer l'alcool. Du coup, on le rembourse en amont en payant des cotisations de sécurité sociale. Donc moi, par exemple, sur une bouteille de Genepi 70 centilitres à 40 degrés, puisque les taxes sont indexées sur le volume. Et le volume de la bouteille et le pourcentage d'alcool. Donc je reprends sur une bouteille d'alcool à 70 centilitres, 40 degrés, comme l'est mon Genepi par exemple, je paye 7,03 € de accise plus sécurité sociale. Avant la TVA. La TVA de 20% s'appliquera là-dessus. Donc c'est une taxe sur la taxe. Ce qui fait que vous avez quasiment 15 balles de taxe sur la bouteille en fait. Voilà, tout simplement, augmentation des taxes. Les douanes sont très vigilantes quant au contrôle de l'alcool, puisque bah, c'est ce qui leur apporte une quantité astronomique d'argent, donc forcément, ils contrôlent. La suppression de l'alcool au travail, les gens ne boivent plus le midi. Ils boivent pas dans les cantines d'entreprise et même au restaurant, c'est assez rare qu'ils boivent ou juste un petit verre, une 25 de bière ou un verre de vin, basta. Les contrôles et sanctions renforcées de l'alcool au volant, là vous savez tous, hein. Avant, en 1960, tu sortais, tu te mettais une race, tu rentrais chez toi, t'avais pas de ceinture, pas de contrôle de flic, et même des fois le flic il te contrôlait, soit il en avait rien à foutre, soit il était bourré comme toi. Aujourd'hui ça n'existe plus du tout. Donc forcément que les gens boivent moins, parce que quand ils sortent au restaurant, bah s'ils sortent à deux, soit ils vont très peu boire, soit il y en a un sur les deux qui va pas boire. Donc au final ça revient au même. Ça fait que tu vends beaucoup moins d'alcool. Encore une fois, je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien, c'est juste un fait. L'argument de je ne bois pas parce que je conduis est un des arguments les plus visibles. Il suffit d'avoir travaillé en restauration. Vous avez travaillé une semaine en restauration, vous le voyez tout de suite. Surtout le soir. Le midi, il y aura l'argument de je bois pas parce que je travaille cet après-midi, et le soir, il y a l'argument de je bois pas parce que je rentre en voiture. Donc c'est pas forcément que les gens ne veulent plus boire, c'est qu'ils ne peuvent pas boire. Donc encore une fois, la consommation d'alcool chute, là, pas par volonté personnelle, mais par puissance extérieure, par effet de coercition, tout simplement. Après, bah, faut doubler ça aussi avec, vous les avez tous vus, notamment aux approches des fêtes de Noël et de la Nouvelle An, de la Nouvelle Année, les spots de prévention sur les accidents de la route. Alors, les accidents de la route, ça passe un petit peu tout le temps. Il y a aussi eu ces derniers temps. Un spot où on voyait des gens qui trinquaient et disaient ouais santé Et le spot disait, mais comment vous pouvez souhaiter santé alors que l'alcool tue 40 000 personnes par an? Bon, voilà, c'était des spots payés par nos impôts, et notamment payés avec les impôts des industriels et des fabricants d'alcool, les artisans et des industriels, pour fracasser directement le milieu de l'alcool. Donc il y a un très très gros travail de l'État, que ce soit sur les spots d'accidents de voiture, les spots anti-alcool directement, qui sont directement visés sur le monde de l'alcool, ou les préventions avant les fêtes. Vous savez, quand on tient un ami, on le retient, enfin voilà, tous les trucs comme ça, vous voyez les stars. Tout ça, c'est financé par l'État. C'est l'État qui paye pour directement influencer la population à moins boire ou à ne pas boire avant de conduire. Et le dernier, pour moi, le dernier, la dernière action de l'État, où vous voyez déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. La dernière action de l'État, c'est la loi Evin. Un contrôle drastique de la communication autour de l'alcool. Alors j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais pas de pub à la radio, pas de pub à la télé, un contrôle très encadré des affichages, un contrôle très encadré sur les réseaux sociaux, pas le droit de montrer de la convivialité, pas le droit d'avoir des ambassadeurs connus qui vont faire je sais pas quoi en concert, etc. Enfin, pas le droit de donner de la gratuité à des BDE pour leurs événements. Enfin, il y a tout un tas de règles qui viennent considérablement entraver la consommation, pardon, la communication sur l'alcool pour tout simplement faire de la pub et inciter les gens à acheter. Donc, c'est vraiment un vrai bloqueur. Donc, on n'a pas le droit de communiquer. L'État dit qu'on va vous tuer. On te taxe vachement. Et en plus, il y a des contrôles douaniers et de police qui sont renforcés pour ceux qui ont consommé. Donc, vous voyez que toutes ces barrières-là mènent inévitablement à une grosse baisse de la consommation. Et c'est surtout pour moi, je le mets avec ce sur quoi j'ai insisté juste avant, la socialisation digitale versus la socialisation dans le monde réel, c'est que toutes ces choses-là mènent à se dire, bon, bah, j'ai encore moins envie d'aller voir les gens. Où il y a un peu plus d'entraves parce que bah, on va se voir, mais on pourra pas boire un coup, donc on sait pas trop où aller, on sait pas trop quoi faire, parce que derrière, je vais me faire contrôler, ou ça va coûter cher, parce qu'il y a beaucoup de taxes, donc ça, les clients ne savent pas forcément, mais ça va me coûter cher, je vais peut-être me faire contrôler, j'ai pas envie de perdre un point, pas envie de perdre le permis. Et puis je viens de voir une pub montrant un accident atroce, donc voilà. Plus, donc en fait, les gens se disent, bah, je reste chez eux et ils voient leurs potes en ligne, tout simplement. Après, le grand danger, qui est peut-être pas trop observable en France, mais qui se voit beaucoup aux États-Unis, c'est que les gens boivent énormément chez eux et tout seuls, du coup. Et pour moi, ça crée un vrai problème, parce qu'on préfère quand même que les gens boivent dans un contexte de socialisation et dans un lieu où ils fréquentent d'autres individus, plutôt que de boire tout seul chez eux et de se mettre des énormes cuites. Enfin bref, du coup l'État a fait un énorme travail, loi Evin, spot de prévention avant les fêtes sur la voiture ou spot de prévention directement visé sur l'alcool, contrôle et sanctions renforcées par la police, la gendarmerie, augmentation annuelle des taxes, tous les ans ça augmente. Donc je vous laisse imaginer quelle était la taxe en 1960 versus en 2025, sachant que ça augmente tous les ans, donc 65 ans d'augmentation. Cette année on a pris... 10 centimes, je crois. Ouais, 10 centimes. Donc en 10 ans, ça fait 1 euro. Donc voilà, il y a 6 euros d'augmentation, quoi. Donc chaque bouteille, vous les paieriez plus de 6 euros de moins, puisque il y a la TVA qui s'applique dessus. Donc voilà. Et la troisième chose, pour moi, qui peut jouer, alors finalement, en regardant ça, ça a un faible impact comparé à tout ce que je viens d'énoncer. Il y a aussi, en comparé à 1960 à 2025, un poids de la population musulmane qui, dans ses règles religieuses, ne boit pas d'alcool. Alors après, il y en a qui vont me dire, non, mais ils boivent en cachette, etc. Mais quelqu'un qui officiellement ne peut pas boire d'alcool, même s'il en boit en cachette, il en boit quand même assez moins, ou pas de bonne qualité, ou il n'y connaît rien. Et donc c'est quand même assez compliqué d'avoir une consommation dite classique, traditionnelle, quoi. Alors, son poids est de plus en plus important en France, donc mathématiquement, le poids d'une population qui ne boit pas du tout, bah, fait que, en fait, si elle avait pu boire, bah, il y aurait plus de consommation. Après, bah, si on retire les musulmans français de l'équation. Notre population par rapport à 1960 de gens qui boivent n'a pas beaucoup bougé en termes de quantité, de volume. Donc c'est surtout la population qui boit, qui elle boit beaucoup moins. Et par contre, la population musulmane est quand même assez jeune, et ça peut peut-être expliquer aussi cette très 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 forte baisse de consommation chez les jeunes, tandis que, comme je vous l'ai expliqué, les 65 ans et plus, dans lesquels il y a beaucoup moins de musulmans, les musulmans sont beaucoup moins représentés, elles boivent, un individu sur quatre de 65 ans et plus boit tous les jours. Donc pour l'instant, on ne s'en rend pas compte de ce poids de la religion musulmane sur la non-consommation d'alcool, puisque les pratiquants de cette religion ne boivent pas, ou très 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 peu, en gros, si vous voulez. Mais les effets se feront probablement ressentir d'ici 10-20 ans, quoi. Et la dernière chose, c'est dans les changements d'habitude et de population aussi, que j'ai mis un mix des deux, c'est les employés des bars et des boîtes de nuit, des magasins qui font, je pense, c'est ce que j'ai pu observer, beaucoup plus attention qu'avant à pas servir les mecs qui sont fracassés. Il n'y a plus d'ardoise, donc des mecs qui boivent et qui payent pas, quasiment plus. Il y a une meilleure conscientisation générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les causes, sur les conséquences, les effets de l'alcool. Donc je pense qu'il y a aussi une plus grande vigilance en fait entre personnes, sans qu'il y ait besoin de la loi. Les gens font peut-être un peu plus attention entre eux, et ce qui peut expliquer aussi une baisse. Mais là, ça explique une baisse chez les gens qui se déboîtent déjà, donc qui font déjà partie du top 1% qui consomment, et peut-être le top 1% n'est pas aussi performant qu'avant. Donc là, bref, pour pas trop m'étaler, la vraie question du coup c'est, ok, les gens ils boivent beaucoup moins qu'avant, surtout le vin, parce que c'est quasiment que le vin qui est impacté. Mais est-ce que c'est grave, docteur? Et qu'est-ce que boivent les gens? Est-ce que les gens boivent moins mais boivent mieux, comme on a tendance à le marteler? Alors, c'est quand même assez difficile à dire, puisqu'on peut pas mettre un barème sur ce qui est bon ou pas, c'est une interprétation qui est assez personnelle. Mais en revanche, dans le vin, même s'il y a une baisse considérable, donc divisée par 6 ou 7 en 60 ans, et qui est constante, hein, voire même qui s'accélère, donc dans 10-20 ans, ça va être encore plus dur, en parallèle, on voit quand même une augmentation des ventes sur le bio et les AOC. Donc c'est la consommation des 20 premiers prix qui a fortement chuté, et je crois que ça a fortement chuté surtout depuis les 20 dernières années. Mais les vins haut de gamme, donc à des prix un peu plus supérieurs, alors il n'y a pas forcément de tranche de prix, hein, mais en gros, les vins entre 2 et 10 balles la bouteille sont en train de s'effondrer, alors que les vins entre 30 et 50 euros la bouteille, on va dire, ou 30 et plus, augmentent. Et le vrai marqueur, c'est le champagne, qui n'était pas beaucoup consommé il y a 60 ans, assez étonnamment, et dont la consommation a quadruplé en 60 ans. Donc là, le champagne, qui est un vin effervescent, mais là, le champagne, ça cartonne. Au niveau de la bière, je vous expliquais, ça, c'est la seule catégorie qui augmente. Alors, elle était historiquement écrasée par le vin, du coup, puisque tout le monde buvait que du vin. Mais récemment, elle a connu quand même un assez grand essor, et dans les toutes dernières années, elle a tendance à inverser la décroissance, elle l'augmente. Ça peut aussi s'observer par l'augmentation des microbrasseries. Il faut savoir qu'il n'y en avait que 150 dans les années 2000. Il y en a plus de 2600 aujourd'hui. Donc là, on a carrément multiplié par quasiment 20 le nombre de microbrasseries, allez, entre 15 et fois 15 fois 17 en 25 ans. Donc c'est énorme. Ce qui montre un vrai intérêt pour la bière, tandis que les gens délaissent le vin. Et la bière, c'est pas cher. Honnêtement, c'est pas cher. C'est moins fort en alcool aussi. Et enfin, les spiritueux, bah, ça reste stable depuis 1960, depuis 80 ans. Les ventes, à l'image du vin sur le premium et super premium, ont tendance à augmenter. C'est-à-dire que les gens, dans les spiritueux, c'est vraiment un milieu d'amateurs où les gens vont mettre de l'argent pour avoir une bonne bouteille. On va en boire moins, mais en boire mieux, vraiment. On voit l'explosion des bars à cocktails, donc qui est quand même une attirance vers les spiritueux, puisque en bar à cocktails, c'est quasiment, même ce n'est que des spiritueux, en fait, des apéritifs, des spiritueux et des softs. Ça fait plus 30% en 10 ans, la création de bars à cocktails. Donc c'est énorme. Et après, vous le voyez, hein, il y a de plus en plus de gens qui montent leur boîte de spiritueux artisanaux, notamment moi, avec de Michelot, que vous pouvez retrouver sur demichelot.com, et d'autres spiritueux artisanaux aussi, notamment. Donc là, on peut vraiment dire que les gens sont en recherche de nouvelles expériences, de nouveaux goûts. La France est très connue pour ça. Il faut savoir qu'il y a des marques, des géants internationaux qui ne font des éditions limitées que pour la France. Parce que les Français sont demandeurs de nouveautés, d'originalité, notamment sur les spiritueux. Donc voilà, au niveau des vins et spiritueux, c'est quand même assez criant que les gens boivent moins ou autant, mais surtout boivent mieux. Dans la bière, ils boivent autant, voire maintenant plus, mais il y a de plus en plus d'offres de produits de meilleure qualité, parce que ça fait x17 en 20 ans. Donc si ça se crée, c'est aussi qu'il y a une demande. Donc je pense qu'on peut raisonnablement affirmer que les gens boivent moins, mais boivent mieux. Il y a une catégorie qui, par contre, elle s'est fait oblitérer en 80 ans, puisqu'elle a tout simplement été divisée par 26, qui est le cidre. En 1960, on buvait en moyenne 26 litres de cidre par an. Aujourd'hui, on en boit un. Même si aujourd'hui il existe quand même un vrai renouveau, parce qu'il y a des sites de garde, des sites de table. Moi personnellement, j'en bois pas mal, j'adore le cidre. Le cidre, il y a énormément de bio, même des cidres hyper intéressants avec des pommes quetsch, des trucs comme ça. Vraiment, je vous invite à vous y intéresser. Le cidre, ça coûte pas cher, c'est un truc de fou, c'est super bon. Mais en fait, avant, on buvait du cidre à l'école, les enfants buvaient du cidre, donc on buvait en moyenne 26 litres de cidre par an, tandis qu'aujourd'hui, on n'en boit plus qu'un seul. Donc forcément, le cidre est devenu une catégorie quasiment inexistante, voire inexistante totalement. Alors on sent un petit renouveau en ce moment, mais il faut quand même sacrément pousser, quoi. Donc oui, le volume d'alcool au niveau national a une chute spectaculaire, mais ceux qui encaissent la baisse, bah en fait, c'est le vin, et c'est surtout le vin de mauvaise qualité. Donc est-ce que c'est un danger pour la consommation, enfin c'est un danger pour le business? Là, est-ce que là, je reprends, est-ce que la grosse baisse de consommation à l'échelle nationale est un danger pour le business des alcools français? Alors pour ceux qui font des gros volumes sans recherche de qualité, ça commence à être vraiment la merde, hein. Il faut savoir qu'à Bordeaux, il y a des gens qui sont payés par l'État, qui touchent des subventions pour arracher leurs vignes. Donc là, c'est qu'ils sont vraiment dans la merde. Alors pour l'instant, au niveau de la bière, ça ne se voit pas, puisque le milieu de la bière industrielle arrive par certaines méthodes à s'arroger toujours de très très gros volumes pour l'instant. Mais je pressens qu'ils seront rapidement concurrencés par leurs distributeurs, qui sont eux les vrais détenteurs du pouvoir, donc ceux qui vendent les bières des industriels aux bars et aux restaurants à destination des clients finaux. Je sens que les distributeurs vont progressivement prendre la main, parce qu'un distributeur ayant déjà le réseau de distribution peut assez facilement racheter une brasserie artisanale du coin qui coûte pas très cher, surtout que vous voyez qu'il y en a 2600 à travers le pays, donc il y a de quoi faire. Hop, s'il y en a une qui marche moins bien ou qui marche bien, tu mets quelques millions ou quelques centaines de milliers d'euros sur la table, ce qu'ils ont, hein, ce qu'ils ont dans leur caisse, tu t'arroges une brasserie artisanale et tous les clients que tu avais déjà dans la zone, puisque tu es distributeur, donc c'est toi qui leur vends, et bah, tu squeezes l'industriel, tu vends des brasseries artisanales faites localement qui est en fait maintenant ta propre brasserie. Et bah après, j'ai envie de te dire, pour le client final, c'est pas forcément plus mal puisque tu vends de la bière de qualité. Et à un prix qui peut être plus ou moins raisonnable en fonction du niveau de magouille. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain podcast, la magouille du business de la bière. Mais bref, en tout cas, dans la bière, pour l'instant, la grosse quantité, c'est quand même la bière de merde. Mais progressivement, je fais le pari que les distributeurs vont planter un couteau dans le dos des très très grands brasseurs industriels. Et pour le business, après, des vins et spiritueux de la France en général, bah faut aussi se dire que 75% du chiffre d'affaires des acteurs est réalisé grâce à l'export, hein. 25% aux États-Unis, 10% en Angleterre, enfin au Royaume-Uni. L'exemple que je cite souvent, donc, est le cognac, qui est bu seulement par 2% de la production de cognac est bu par les Français, 98% par l'export. Donc, en fait, la baisse de consommation nationale peut être un problème, mais si vous exportez, c'est tout de suite moins un problème. Donc, la filière, pour l'instant, elle n'est pas en danger, sauf si vous êtes quelqu'un qui fait des grands volumes avec de la qualité de merde. Là, il va commencer à falloir s'inquiéter parce que les gens cherchent de la qualité et de toute façon, ils boivent de moins en moins. Donc, quand ils vont se mettre à boire, le moment qu'ils vont prendre pour boire, eh ben, ils vont chercher à boire quelque chose de bon, qui a une petite histoire stylée et qui est sympa. Voilà. Écoutez, un petit changement de registre, on rigole moins, mais j'essaie de vous apprendre des trucs. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, notez-le bien, lundi 2 juin à 9h du matin, la sortie des 4 maquisards. Vous savez ce que c'est, vous les avez vus dans les précédents épisodes de podcast, je vous ai tout expliqué. Et le gin Citadel en collaboration avec Dose de France. Voilà, ces éditions-là sortent juste avant la fête des Pères. Ce n'est pas de la prévente, c'est de la vente directe. Donc, une fois commandé, vous les recevrez avant la fête des Pères, c'est sûr et certain. Faites un joli cadeau à votre padré. Et puis, aidez une société qui travaille pour mettre en avant les super spiritueux français. Voilà. C'est-à-dire ma société, en fait. Comme ça, en fait, avec cet achat, vous me faites vivre moi, vous faites vivre la distillerie à qui j'ai acheté le tonneau, vous faites vivre les tonneliers, vous faites vivre les vignerons, vous faites vivre les distillateurs ambulants, vous faites vivre plein de monde. Ce sont des achats qui ont du sens. Et c'est surtout que c'est pas juste un, je sais pas, comme une affiche ou quelque chose comme ça que vous pouvez pas consommer. Là, vous avez vraiment un produit à consommer, hein, qui est un produit déjà dingue en termes de goût, en termes d'histoire, en termes de terroir. Enfin bref, je vous ai déjà expliqué tout mon amour pour les spiritueux et ce que ça représentait pour moi. Ce n'est pas que un bien de consommation, c'est un bien culturel, historique et de consommation. Et un bien qui a du sens. Voilà. Je remercie par avance tous ceux qui suivront et qui m'aideront là-dedans et qui achèteront les spiritueux maquisards ou autres. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao!